enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Deutéronome chapitre 28, verset 9, dit ceci. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. A priori, lorsqu'on lit ce verset, on n'a pas l'impression qu'il s'agit vraiment d'une bénédiction. On ne voit pas quelle est la faveur ou la grâce qui est accordée à celui qui met ce passage-là en application. Amen. L'Éternel t'établira pour être son peuple saint. Mais pourtant, si, c'est une bénédiction et c'est une faveur très spéciale de Dieu. Amen. N'oubliez pas, c'est la 7e bénédiction. Alléluia. Ceux qui savent un peu l'importance aussi quelquefois du chiffre 7 dans la parole de Dieu. Cette bénédiction est assez particulière que nous aurons à la développer tout le long de ce mois. Mais c'est une grâce lorsque Dieu vous accorde. Il dit, l'Éternel va t'établir pour être son peuple saint. C'est quelque chose, vous savez, le mot sanctification, la sanctification, ou bien le mot consécration, veut dire être mis à part, mis à part. Celui qui reçoit cette faveur est distingué par Dieu de tous les autres. Quand cette faveur vient dans votre vie, Dieu vous distingue. C'est la porte de la consécration. Le mot consécration veut dire quelque chose est mis à part pour. Alléluia. Celui qui reçoit cette bénédiction, lorsque vous l'observez, lorsque vous le voyez, vous sentez que le nom de l'Éternel est invoqué dans sa vie. Amen. Je ne sais pas, c'est-à-dire que lorsque cette faveur est manifestée, lorsque cette personne arrive dans un endroit, l'atmosphère devient favorable. Les gens sentent que Dieu est là. Alléluia. Vous savez, la majorité des chrétiens n'ont pas cette bénédiction. On arrive dans des endroits, on ne sait même pas même que Jésus est arrivé. Il faut que, quelquefois, nous puissions attraper une grosse Bible. Donc on dit Jésus-Christ est dans la place. Alléluia. Non. Et les hommes de Dieu, Paul pouvait dire, nous sommes, vous êtes une lettre vivante. Vous savez que la Bible, elle ne date que du 1er siècle, même du 2e siècle. La Bible compilée, telle qu'elle. Les apôtres en leur temps n'en avaient pas. Ils n'avaient pas une Bible avec laquelle ils se promenaient pour distinguer qu'ils étaient chrétiens. C'était leur vie, leur façon d'être. Il y avait une telle présence de Dieu dans leur vie que lorsque tu les voyais, tu sentais que Dieu était là. Et ça change l'attitude. Dans mon expérience avec le Seigneur, j'ai rencontré des personnes comme cela. Ça veut dire, ils n'ont même pas besoin de parler. Vous êtes assis simplement avec ces gens-là. Et vous sentez que Dieu est là. Vous n'avez même plus envie de pécher. Ça veut dire, si même tu étais en train de faire quelque chose qui n'était pas bien, en même temps, tu te redresses. Alléluia. Ce n'est pas accordé à tous les chrétiens. Je me souviens qu'au début de ma conversion, j'étais élève au lycée 1 de Dalois. Ce qu'on fait Dalois, en classe de seconde C3. Et avant, en classe de seconde C2, un élève qui avait une intimité particulière avec le Seigneur. Quand tu le vois, Dieu est là. Moi, les gens m'appelaient déjà pasteur parce que je prêchais l'évangile avec puissance. Je reprenais tout le monde dans le péché. Réponds-toi, change de vie. Les soeurs, je vous assure que maintenant, là, j'ai trop changé, je suis devenu trop gentil, c'est pas bien. Avant, les histoires de les femmes qui portent pantalon, là. C'était moi-même. Non, une femme ne s'habillera pas comme un homme. On m'appelait pasteur. Alléluia. Bon, mais c'était un bon zèle, mais il y a quelque chose qui manquait. Je manquais beaucoup d'amour dans ce que je faisais. Et puis, Michel qui était dans notre classe, lui, il ne parlait pas beaucoup. Mais quand tu le voyais, tu as envie de respecter Dieu. Cet élève-là, quand les élèves font du bruit dans sa classe, quand il arrive simplement, les gens se taisent. Non, je vous assure. Ils s'assoient en classe. Si les élèves sont tels bavardés, s'il vous plaît. Même leur chef de classe, quand il parle, on lui dit, qui devant vous ici? Mais lui, quand il parle, c'est comme s'il attire le respect de Dieu. Alléluia. Ce sont des gens de personnes, quand vous passez, quand tu le vois arriver, si tu fumes, tu prends la cigarette. Si quelqu'un fume, tu prends et puis tu jettes la cigarette. Et tu croises les mains. Ce n'est pas parce que tu as peur de la personne. Mais imaginez-vous, même si on dit tu es païen, comment? Et puis tu vois Dieu. Dieu arrive. Si tu es tenté de filmer, est-ce que tu peux continuer? Tu vas jeter ta cigarette. Tu vois non, tu es. Il y a une attitude de respect. Ok? Et ces gens-là communiquent cela. Dieu t'établit. Dieu te distingue. Les gens vont te voir et ils sauront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi. parce que tu as mis une tenue particulière. Parce que quelquefois, les hommes, pour combler ça, ils s'habillent d'une manière. Mais l'habit, ce n'est que la face extérieure. Ça parle de la consécration qui vient du cœur. Amen. Alléluia. C'était quelqu'un de spécial. Quand je suis arrivé en première année, j'ai commencé à voir Dieu manifester ça un peu dans ma vie quand même. Les élèves commençaient, parce que quand tu vas dans la boutique, tu oublies de traverser le bar de l'école. Quand j'arrive là-bas, tous mes camarades là, Ayam Sokro, à l'NCB. Donc quand j'arrivais là-bas, les gens cachaient maintenant leur boisson. Donc je me rappelais, je dis, ah, je commence à ressembler un peu à mon frère. Je l'admirais beaucoup. Je dis, mais vraiment, moi je prêche, mais quand, si j'arrive en classe, je dis aux gens, taisez-vous, les gens crient sur moi. Mais pourtant, tout le monde m'appelle pasteur. Mais ce frère, il s'appelle Michel, lui, il n'a pas besoin de parler. Quand il vient, tout le monde veut le voir. Les gens sont là, je me suis bien comporté aujourd'hui. Est-ce que j'ai eu une bonne attitude? Il dégageait une telle présence de Dieu, un tel amour pour les gens. Amen. L'Éternel t'établira, toi, pour être un peuple saint. Alléluia. Il faut que tu vois, lorsque tu rentres dans un endroit, si les gens étaient en train de faire des magouilles, en même temps, ils changent. Quand les policiers arrêtent ta voiture, quand ils regardent ton visage, ils ne peuvent plus te demander l'argent. Et ils savent que ton visage ne ressemble pas devant Dieu. Comment tu peux voler devant Dieu? Amen. Cette porte vous ouvre cette faveur. Dieu la prononce dans votre vie. Partout où les gens vous verront, on saura que le nom de l'Éternel est posé sur vous. Or, si vous lisez quelques histoires d'hommes de Dieu bénis, un homme comme le Sadhu Souda Singh, vous avez déjà lu son livre? Quelques-uns l'ont lu? Ah, les gens disent, quand on le voit, tu as l'impression de voir Jésus. La porte de Dan dit, Dieu va t'établir pour être son peuple saint. C'est-à-dire, quand les gens vont vous voir, on saura que ces gens-là sont des adorateurs de Dieu. Aujourd'hui, les païens ne respectent plus la gloire de Dieu à cause de nous. On est trop vulgaires. Et puis, même, c'est nous-mêmes qui cherchons à les imiter. Les gens sortent des danses. Nous, on veut danser ça à l'église. Les gens font danser. Non, c'est pour les évangéliser. Quelle manière d'évangéliser? Tous ceux qui cherchent Dieu savent ce que c'est que la crainte de Dieu. Quand tu ressembles à un païen, il sait que ce que tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Le païen même sait ça. S'il veut se convertir, il va te dire la vérité. Le païen sait ça. Un qui dit non, tu sais, je vais en boîte de nuit pour aller évangéliser. C'est n'importe quoi. Quelle boîte de nuit pour aller évangéliser? Le païen même vient te dire, toi là, Dieu n'est. Ça vous est jamais arrivé? Toi même tes frères à la maison, ils te disent deux mots. Ils disent, mais toi, tu dis que tu es chrétien. Et puis tu fais des trucs comme ça. Maintenant, toi même pour te justifier, tu dis, je n'ai pas péché. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai péché? Alléluia! Mais toi-même, dans ton esprit, tu sais que tu n'aurais pas dû avoir une telle attitude. Quelquefois, ce n'est pas des attitudes qui sont le péché, qui sont des attitudes de péché. Mais c'est juste un geste, juste une manière de se comporter, juste une façon d'agir pendant que les gens vous agressent, pendant que les gens parlent. Votre calme, quelque chose que vous dégagez. Et cet homme qu'on appelle le Sadhu Souda Singh, il était comme ça. Quand les gens le voyaient, il disait souvent, j'ai vu Jésus. C'est pas forcément pas qu'il ressemblait à Jésus. Mais il dégageait la présence de Dieu. Amen. Il y a un homme de Dieu que j'ai beaucoup admiré aussi, s'appelle Charles Finney. Je lisais ses livres. Charles Finney. En fait, un peu plus jeune, on m'appelait même Charles Finney. Tellement j'aimais cet homme. Je dis, Seigneur, je veux être comme cet homme. Quand il arrive dans un endroit, les gens commencent à pleurer sur leur péché. Il arrive un jour dans une usine. Il arrive dans l'usine. Il rencontre le directeur. Pendant qu'il parlait, le directeur, le monsieur s'est mis à pleurer sur ses péchés. Ses collaborateurs qui sont en train de commencer à pleurer. Quand il est sorti un peu de l'usine, les employés qui travaillaient, eux tous ont commencé à pleurer. Les ouvriers, tout le monde a commencé à pleurer sur ses péchés, à se répentir. Et le directeur a dit, bon, arrêtez de travailler, homme de Dieu, parle-nous du Seigneur. Les gens racontent qu'une fois, il était dans un train. Le train s'est arrêté dans une gare. Il y avait un bar juste à côté. Les gens arrêtaient, ils n'ont pas descendu du train. Les gens, ils ont jeté leur bouteille, ils ont commencé à pleurer. Pourquoi ils boivent? Pourquoi eux-mêmes, ils sont là? Ils sont là, mais la boisson là-même me donne quoi? Ça me détruit ma vie. À quoi ça, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Sans parler. La Bible dit selon les femmes, il dit, femme, que votre comportement, il dit, sans parole, que vous puissiez attirer les hommes vers le Seigneur. Paul donnait ce conseil-là aux femmes. Il dit, afin que sans parole, il y a une dimension que vous pouvez atteindre avec Dieu. Vous n'avez plus besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire, réponds-toi. Quand les gens te regardent, ton visage veut dire, réponds-toi. Même quand tu le souris, tu souris avec lui, une salutation, ça veut dire qu'il faut qu'il change de vie. L'Éternel va vous bénir de cette bénédiction. Dieu va t'établir pour être son peuple saint, quelqu'un à part. Sa main va se manifester dans ta vie. Ah, ce moment, on va étudier la clé de cela. Alléluia. Comment déclencher cette faveur dans sa vie? Qui veut ça? Tu comprends l'affaire, non? Ça veut dire que tu dois devoir changer beaucoup de choses, hein? Hey, tu peux être là, pendant que les gens sont là, tu bavardais les gens n'importe comment, deux hommes, dans le film là, oh, c'est les braves, les filles. Tu parles à les païens comme ça là. Les gens discutent. Le film là, on dit qu'il a fait quoi? Et mais tu sais, puis vous criez dans la maison comme ça là. Tu vois? C'est pas un péché, hein? Mais ça te rend vulgaire. Vous trouvez pas? Ça fait que les gens ne respectent pas ton Dieu. Ça fait que les gens, tu parles, tes parents. Le jour où tu as dit, mais viens à l'église, tu n'attires pas les gens à rencontrer le Seigneur. Amen. Alléluia. Tu cries à les païens, tu ris fort fort à eux comme ça. Je n'ai pas dit de ne pas rire à vos parents. Je n'ai pas dit de ne pas vous amuser avec eux. Mais vous savez, il y a une façon de le faire, un feu qui vous... Imaginez-vous, par exemple, le chef de l'État. Il vient, et puis il rit. En tout cas, il se manifeste d'une manière. À un moment donné, tu n'as plus respecté. Tu as dit, ah, monsieur le président, vous êtes quand même le chef de l'État. Alléluia. Et vous, vous êtes les fils du roi. Les gens doivent savoir que vous êtes des princes. Non, je ne parle pas de... Quelquefois, cet évangile, on dit, les gens sauront que nous sommes des princes avec les sapes qu'on va porter. Non. Je ne crois pas que ce soit ce qui nous distingue. Parce que dans le monde, je ne vois pas quel type d'habits n'ont pas eu déjà. Donc, ce n'est pas par cela que Dieu les distingue. Il y a un autre type de vêtement qu'on porte. Ce n'est pas le vêtement qui frappe aux yeux. Un homme comme Jean-Baptiste portait la gloire de Dieu sur lui, mais il était bien en haillons. Jésus-Christ s'habillait bien, parce que les gens luttaient même pour prendre ses habits. Mais il dégageait la gloire de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la tenue que vous portez. Ça a à voir avec l'intérieur de vous-même, votre être profond. Portez sur vous la gloire de Dieu. Juste que lorsque les gens regardent, ils voient Dieu au travers de vous. Non, dans l'Ancien Testament, pardon, l'apôtre Paul, Pierre, il n'y a pas besoin d'avoir des autocollants sur leur portail pour dire, attention, zone du Saint-Esprit, chrétien ici. Ou bien sur votre voiture avec un petit poisson. Non. Tu vois, les gens, ils ont les petits poissons avec les versets sur leur voiture. Mais c'est un témoignage contre eux souvent. Parce que quand les gens leur font quelque chose au volant, là, ils baissent leur fenêtre et puis ils insultent le gars. Quand ils dépassent le type qu'ils ont fini d'insulter, le gars voit sur la voiture, Jésus-Christ est Seigneur. Il dit de la manière dont il m'a insulté, là. Et puis derrière, il met Jésus-Christ est Seigneur. C'est une honte. Vous ne trouvez pas? Sur le portail, Jésus-Christ, roi de gloire. Mais tu viens lui demander de l'eau à boire. Tu veux quoi? Quitte-moi ici dans la maison. Puis il ferme la porte sur toi. Bam. Et tu lui as à côté, Jésus-Christ, le roi de gloire. Non! Dis à ton voisin, non. Non! Arrêtons ces histoires. Arrêtons les autres. Mettez l'autocollant si vous voulez, mais l'autocollant, ça va être vous. C'est quand les gens vous regardent, on doit voir Dieu. Dans votre façon d'être, dans votre façon de parler, dans votre façon de vous comporter, chez vous, dans votre boulot, dans vos activités, quand les gens vous regardent, la manière dont vous êtes patient, la douceur avec laquelle vous travaillez, l'amour que vous manifestez, on dit, il ressemble à Jésus. Jésus est écrit sur vous. Sans que vous écriviez, vous ayez un badge qui dit chrétien, le Saint des Saints dans ma vie. Non, pas toutes ces choses-là. Alléluia. En fait, si votre vie ne manifeste que vous l'écrivez, on comprendra. Mais j'ai l'impression quelquefois que c'est pour se prouver à soi-même qu'on est bien, qu'on met les choses comme ça. Amen. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Hein. Faut pas que je fasse la conne publicité de nos frères libraires qui vendent toutes ces choses à l'acheter. Amen. Mais Dieu veut que tu sois à part. Ta façon de vivre, ta façon d'être, pour attirer la gloire de Dieu dans ta vie. En fait, non, c'est quand la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie qu'elle se répand comme un parfum. Et les gens sentent cela autour de toi. Alléluia. Les gens même vont vouloir venir habiter à côté de ta maison. Parce que là où tu habites, la gloire de Dieu est là. Amen. Mais je t'assure, si ton cœur est disposé, si tu appliques la parole de Dieu, si tu manifestes cette clé, cette année, tu vas ouvrir la porte de Dan. Tu vas ouvrir la porte de Dan. Mais fais ce que ton Dieu te demande de faire. Et il va t'établir pour être son peuple saint. Alléluia. Alléluia. Mais, vous savez, la porte de Dan, vous savez, là, je vous ai expliqué que depuis la porte des ennemis, qui est la porte de Zabulon, on commence à rentrer dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, on commence à toucher, à tâter, à se rapprocher de plus en plus de la gloire de Dieu, de la bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Et nous avons touché beaucoup d'aspects. On a appris dans la porte d'Issacar à être agréable à Dieu, à faire ce qui touche le cœur de Dieu. Amen. Pourquoi nous avons voulu consacrer les jours qui viennent à l'adoration? Parce que Dieu siège dans l'adoration. Mais l'adoration dont parle le Seigneur n'est pas l'adoration, n'est pas seulement l'adoration où on vient à l'église, on chante, on se prosterne, on a les larmes aux yeux. C'est une vie, un adorateur. Ce dont parle le Seigneur, c'est une façon de vivre. Et mes amis, vous êtes nés pour être des adorateurs. Cela est en vous. Il faut simplement prendre des dispositions. Ôtez de vous ce qui n'est pas du Seigneur et laissez Dieu manifester sa gloire au travers de vous. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 16. Il est dit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Amen. Ce passage est donné dans le contexte du concile, du premier grand concile de Jérusalem, en Actes chapitre 15. Il faut lire tout le chapitre pour comprendre le contexte. Il y avait des problèmes dans l'église. Les gens n'arrivaient pas à savoir comment l'église devait fonctionner sur certains points. En l'occurrence, la gestion des non-juifs qui se donnaient au Seigneur. Et il y a eu donc un grand débat avec l'apôtre Paul, Pierre, tout le monde était là. Tous les grands apôtres sont retrouvés pour débattre, pour discuter et pour sortir une ligne de conduite. Et en ce moment-là, Jacques va rappeler une prophétie du Seigneur. Il dit, Dieu a dit, dans les derniers temps, je vais revenir et je vais relever une tente qui s'est effondrée. La tente-là s'appelle la tente de David. Il dit, je vais la relever, je vais la restaurer. Et quand cette maison, quand cette tente-là, cela sera restaurée, c'est comme si le cœur des hommes va commencer à chercher l'Éternel. C'est ce que le passage dit. Quand je relèverai de sa ruine la tente de David, le reste des hommes se mettra à chercher Dieu. Quelque chose va se passer dans le cœur des hommes. Alléluia. Je vous ai dit que lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, les gens qui sont sous sont attirés vers le Seigneur. Le Seigneur pouvait dire, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Amen. Et c'est ce que Dieu va vouloir commencer à manifester avec nous. Alors c'est quoi la tente de David? Pour comprendre l'histoire de la tente de David, il faut bien sûr aller dans l'Ancien Testament. Le roi David avait eu un projet. Il avait transporté ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, ceux qui ont suivi l'enseignement sur le tabernacle, j'en ai longuement parlé, c'est quelque chose, c'est un grand caisson, un coffre, que Dieu avait révélé à Moïse de construire. Moïse l'a conçu. L'arche, ce coffre-là, représentait la gloire suprême de Dieu. Tu ne pouvais pas voir ce coffre-là comme ça et puis vivre. Chaque fois que tu le rencontrais, tu étais en danger de mort parce qu'il y avait la gloire de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas la grâce du pardon. Donc, quand vous arriviez devant l'ange, si vous n'étiez pas prêt, la gloire de Dieu pouvait vous tuer. Dieu pouvait dire à Moïse, aucun homme ne peut me voir et vivre. La gloire de Dieu était manifeste dans ce lieu. Et c'est pourquoi dans le tabernacle de Moïse, on l'avait mise dans la pièce la plus au fond, qu'on appelle le Saint des Saints. Comprenez, la sanctification de ce qui est déjà saint. Le Saint des Saints, c'est-à-dire une sainteté, sainteté de deuxième degré au moins. Amen. Et c'est là-bas qu'on avait déposé l'arche. Et quand le souverain sacrificateur devait arriver dans ce lieu pour adorer l'Éternel, on mettait une chaîne à son pied. Et d'abord, on y rentrait une seule fois par an. Et puis quand il rentrait, d'abord, il devait, comme il partait une seule fois par an, il fallait se sanctifier. Quand tu sais que c'est ton tour, tu vas te laver, te préparer. Veillez à ce qu'aucune mauvaise pensée même n'aille effleurer ton esprit. Mais même encore là, c'était risqué. Quand les gens rentraient, donc on mettait une corde derrière eux. Là, s'il est arrivé là-bas, en rencontrant Dieu, si hier il a fait un petit péché, qu'il meurt, on peut le tirer avec la corde. Amen. Pour ne pas que son corps reste là-bas. C'est pour vous dire simplement combien de fois c'était puissant. Une fois même, David avait un peu négligé l'arche de l'Éternel. Il avait fait monter sur une charrette. Quand l'arche a failli tomber, Uza a voulu toucher l'arche. Il est tombé raide mort. L'arche de l'Éternel représente la gloire suprême de Dieu. Et il devait être dans le lieu très saint, pas à la portée du public. Parce qu'il pouvait être fatal pour le public. Amen. Amen. Alors, David va recevoir une révélation de Dieu. il va construire lui aussi un autre tabernacle. Donc dans la Bible, il y a deux tabernacles. Le tabernacle de Moïse et le tabernacle de David. Le tabernacle de David, lui, il n'a pas trois pièces. Il n'y a pas parvis, lieu saint, lieu très saint. Il y a une seule pièce. C'est de ça qu'il est question. Dans cette seule pièce, il y avait des chantres et des adorateurs qui étaient là-bas et qui adoraient le Seigneur 24 heures sur 24. Des adorateurs de Dieu. Il y avait plus de 4000 personnes qui étaient disposées pour adorer dans ce temple. De sorte que l'adoration ne cesse jamais. Amen. David prophétisait par là une révélation. Il dit que l'homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et puis vivre. Mais quand Dieu trouve des adorateurs vrais, ils peuvent supporter la gloire de Dieu. David a réalisé un exploit. Arriver à conserver la gloire de Dieu, pas dans le lieu très saint, mais dans une seule tente, juste avec l'adoration.
Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me suit? Conserver la gloire de Dieu juste par l'adoration, c'est une clé, mes amis. Dieu siège dans la louange de son peuple. La Bible appelle l'Éternel, il dit, appelle Jésus, le lion de la tribu de Juda. Le mot Juda, on a vu, ça signifie quoi? Louange. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'est pas le lion des autres tribus. Quelques ont dit, on peut se poser la question, mais il y a 12 tribus. Pourquoi c'est Juda seulement dont lui est le lion? Ce qui fait que quand on a fait le passage des portes, tout le monde voulait être dans la tribu de Juda. On dit non, les autres tribus là, on ne les connaît pas. C'est Juda. Jésus est dans Juda. Non, Jésus n'était pas en train de dire qu'il faisait un favoritisme par rapport à la tribu de Juda. Mais c'est le sens du nom Juda qui l'intéresse. Le nom Juda signifie louange. Lorsque Christ dit, je suis le lion de la tribu de Juda, on est en train de dire, le lion c'est le roi. Le roi qui siège dans la louange. Lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ça ne veut pas dire le roi de Juda. Ça veut dire le roi. Hey, alléluia. Ça veut dire en fait que quand il y a Juda, quand il y a la louange, le lion arrive. Le lion de la tribu de Juda. La véritable louange attire la présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Et je vous ai dit que la louange attire la gloire de Dieu. Mes amis, on a longuement parlé de la gloire de Dieu ces temps-ci. Je vous expliquais que la vraie soif dans le cœur de l'homme, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je suis convaincu que nous sommes sur le point de voir Dieu descendre dans sa gloire. Oui, mes amis. Toutes les manifestations qu'on a vues les siècles passés n'auront rien de comparable à ce que nous allons voir bientôt. Amen. Et c'est ça la prophétie de Jacques. Cette prophétie-là. Dans les derniers temps, je vais relever la tente de David. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, la tente de David a disparu. Dieu l'a fait disparaître parce que les hommes n'ont pas compris. David, vous savez pourquoi Jésus s'appelle le fils de David? Vous n'avez pas remarqué que Jésus ne dit pas, je suis le fils d'Abraham? Vous n'avez pas remarqué ça? C'est pas dit qu'il n'est pas le fils d'Abraham. Non, mais quand il dit Jésus-Christ, fils de David, ça parle de quelque chose de très précis. Vous comprenez? De manière généalogique, il descend aussi d'Abraham. Et pourquoi il fait référence à David? Parce que David était un tel adorateur de Dieu, tellement il voyait le ciel, il est entré dans une dimension qu'aucun prophète n'a pu atteindre. Il a vu ce que les autres n'ont jamais vu. Il a vu que l'âge de l'Éternel que Moïse a fait, on peut le conserver en adorant seulement. Alléluia. Alléluia. Et l'âge de l'Éternel représente la gloire de Dieu. Et je vous ai dit la dernière fois que la gloire de Dieu est le véritable besoin dans le cœur de l'homme. C'est notre vraie soif. Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce dont l'humanité a été privée lorsqu'il a péché, c'est la gloire de Dieu. Le vrai besoin des hommes, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas un travail. C'est la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le vrai besoin de l'homme, c'est la gloire de Dieu. Ce que l'humanité a perdu, c'est la gloire de Dieu. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ce qui a disparu de leur vie, c'est la gloire de Dieu. La Bible dit, tout le monde a péché et tout le monde a été privé d'une chose, pas de deux, pas de trois, la gloire de Dieu. C'est parce que la gloire de Dieu est partie que les hommes courent derrière le mariage, courent derrière l'argent, courent derrière ceci. Ils cherchent du matériel, croyant que c'est ça leur vraie soif. Et je vous enseigne ceci, c'est que même quand vous obtenez ce que votre cœur désire, vous êtes toujours insatisfait. Tu sentiras qu'au fond de toi, il y a quelque chose que tu veux combler. Le vide qui est en toi, ça s'appelle la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est la vraie soif des hommes. C'est ce vers quoi on court, mais on ne sait pas qu'on court vers elle. La gloire de Dieu. Amen. Alléluia. C'est cette gloire-là qui était sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La gloire de Dieu. C'est pourquoi Adam et Ève ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient habillés. Habillés de quoi? De la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu vient dans votre vie, elle couvre vos faiblesses et vos manquements. La nudité était un problème. La Bible dit, quand vous lisez Genèse attentivement, le verset dit, il dit ceci. Ils n'avaient point honte, quoique pourtant ils étaient nus. Si Dieu fait cette remarque, ça veut dire que la nudité est un problème. Amen. Mais quand même, ils étaient nus. Mais Dieu les couvrait. Lorsqu'ils ont péché contre Dieu, la gloire de Dieu est partie. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Amen. Et quel a été leur réflexe? Ils ont coupé des feuilles d'un figuier pour s'habiller, pour se couvrir. J'expliquais ce matin, j'ai dit, c'est la raison pour laquelle Jésus est fâché contre les figuiers. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il a maudit un figuier, non? Ça vient de là. Parce qu'on ne comprend même pas qu'est-ce que le figuier a fait à Jésus. Vous n'avez pas remarqué ça? La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Le figuier était là tranquillement, il ne donne pas son fruit parce que ce n'est pas la saison. Jésus arrive et regarde s'il y a un fruit à l'intérieur. On dit, non, il n'y a pas de fruit. Je te maudis, figuier. Que plus jamais personne ne mange ton fruit. Le figuier a séché. En fait, je pense que c'était une vieille rancune. Parce que quand les hommes ont perdu la gloire de Dieu, ils ont coupé des feuilles de figue pour se couvrir. Vous savez, quand la gloire de Dieu n'est pas là, on cherche toujours des solutions. Tout le monde est faible. Et on a l'impression qu'il faut combler quelque chose pour combler. Les feuilles de figuier, là, c'est tout ce dont on se confie. Ça peut être l'argent, ça peut être le mariage. C'est quelque chose dont on a besoin pour paraître. Parce que si on n'a pas cela, on a l'impression qu'on n'est pas une personne digne de circuler dans la société. C'est ça la nudité. Amen. Il me faut une voiture. Alléluia. Si je n'ai pas la voiture, c'est ça le figuier. C'est ça le figuier. Le figuier, c'est quand tu te rends compte que tu as une faiblesse et qu'il te faut la combler. Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus et qu'ils avaient besoin de combler quelque chose. Ils ont coupé un figuier. Amen. Or en fait, ce qui avait disparu, c'était la gloire de Dieu. Dieu nous annonce que sa gloire va venir. Lorsqu'il dit que la tente de David va être levée, il parle de la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. Amen. Ce que je veux dire autrement, c'est que dans notre vie naturelle, nous ne pouvons pas faire descendre la gloire de Dieu. Mais par rapport à l'adoration qui a lieu dans la tente de David, ça veut dire, si nous appliquons ce que David a compris, la gloire de Dieu va descendre parmi nous, même si nous sommes faibles, même si quelquefois nous avons des difficultés, nous pourrons voir l'âge de l'Éternel, la gloire de Dieu, malgré nos faiblesses. Amen. Amen. Et la clé de cela, c'est la véritable adoration. L'adoration attire la gloire de Dieu. Judas, la louange attire le lion de Judas. C'est ce que David a découvert. Chez Moïse, voir l'âge de l'Éternel, c'était pas Judas, il y avait des règles, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est compliqué. Quand tu regardes même le tabernacle de Moïse là, toi-même tu es sûr que tu vas rester dans le parvis. Amen. Vrai ou faux? Les meilleurs gars, ils luttent pour arriver dans le lieu saint. En fait, le jour où j'ai eu la révélation du tabernacle de David, c'était pour moi un salut. Parce que depuis des années, je cherche à rentrer dans le lieu très saint. Je prie, je regarde, je dis, mais ah. Mais j'ai vu que David a touché cette dimension-là simplement parce qu'il était devenu un grand adorateur. L'adoration touche le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces jours qui arrivent. Adorer, célébrer le Seigneur. Qui que tu sois, quelle que soit ta faiblesse, viens adorer l'Éternel. Rappelez-vous de cette femme-là qui était nommée pécheresse. Son adoration a manifesté la gloire de Dieu dans sa vie. Elle est venue, elle s'est humiliée devant lui. Elle a pris tout ce qu'elle avait comme argent, elle a acheté un grand parfum. La Bible dit qu'on l'appelait pécheresse. Mais quand elle est venue, elle a adoré le Seigneur. Elle n'a pas fait confession de péché. Hein. En un instant, Christ lui a dit, madame, tous tes péchés sont pardonnés. En un instant, c'est ça l'attente de David. C'est cette vie-là de personnes, pas parce qu'on cautionne le péché, parce que quand la femme s'approchait, elle s'humiliait parce qu'elle savait qu'elle était pécheur. Parce qu'elle savait que sa vie était mauvaise. Donc elle aussi, elle ne pouvait jamais toucher la gloire de Dieu. Elle s'est humiliée. Et Christ lui a dit, Madame, tu auras accès à cette grâce parce que tu as su adorer l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu recherche, c'est un peuple d'adorateurs. L'adoration que Dieu recherche, je vous dis, ce n'est pas la chanson. C'est votre vie. C'est une vie qui respecte Dieu, qui craint Dieu, qui honore Dieu. Amen. Quelqu'un qui, dans la vie de tous les jours, célèbre Dieu. Quand tu le vois, tu vois la gloire. Tu sens qu'il respecte Dieu. Il honore Dieu. Il sait considérer Dieu dans sa vie. Amen. C'est ça être un adorateur. De sorte que lorsqu'il approche de l'Éternel et qu'il dit, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Alors quand il dit ça, vraiment il le pense. À jamais tu seras, pour toujours tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Et quand il dit, je fléchis les genoux, c'est vraiment son cœur qui se prosterne devant l'Éternel. Alléluia. Son cœur qui adore l'Éternel. Le pasteur Cassonou, dans son intervention, la dernière fois, nous disait, le mot adorer, en fait, je ne dis pas, c'est la Bible qui le dit. Le mot adorer, ça veut dire, ça vient du mot grec, proskineo, qui veut dire prosterner, face contre terre. Adorer, ça ne veut pas dire chanter. Adorer, ça veut dire se prosterner. Ça veut dire s'humilier devant Dieu. Ce que l'Éternel dit, c'est quoi? C'est que le jour où il trouvera des cœurs humbles qui viennent vers lui, malgré leur faiblesse et leur manquement, et qui vont l'honorer comme Dieu, sa gloire va descendre. La tente de David sera relevée et toute l'humanité sera sauvée. C'est ça la tente de David. Et vous êtes cette génération-là qui allez travailler au relèvement de la tente de David. Alléluia. C'est pourquoi maintenant nous recevons ces révélations. C'est une prophétie de Dieu. Des programmes d'adoration naissent par-ci, par-là. Le ministère d'adoration commence à prendre de l'avant. Pourquoi? Parce que la prophétie qui est écrite là est en train de se réaliser. Mon frère, il ne faut pas que tu sois en reste. Deviens un adorateur de Dieu. Tu vois, Dieu ne te condamne pas. C'est vrai qu'il n'apprécie pas le péché dans la vie. Il n'apprécie pas ta légèreté. Mais reconnais sa grandeur. Humilie-toi profondément. La femme qui est venue adorer Jésus, son nom était pécheresse. Son travail, ce qu'elle mangeait, c'était le péché. Tout le monde a péché. Il y a quelqu'un qu'on appelle pécheresse. Frère, mais dans l'adoration, elle a vu la gloire de Jésus. Elle n'était pas chanteuse. Non, ne croyez pas que l'adoration, c'est savoir chanter. Quand on dit adoration, il y en a qui pensent qu'il faut venir prendre les instruments, apprendre à chanter. C'est cette attitude de révérence dans ton cœur. La manière dont tu penses à Dieu. La façon dont tu t'humilies devant lui. C'est ça qui est l'adoration. La manière dont tu considères sa grandeur. Tu vois, c'est cette vision-là qu'il faut que tu aies de Dieu. Nous voulons la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va se manifester dans l'adoration. Amen. Laissez-moi encore vous dire un dernier secret. Est-ce que vous savez que l'adoration va amener la plupart des musulmans à connaître le Seigneur? Ouais. Est-ce que vous savez que l'adoration... Vous savez, actuellement, tous les chrétiens, tous les hommes de Dieu dans le monde, on flash devant l'islam. On a trop de problèmes. On dit flasher, là, tu arrives à convertir les autres, mais les gars, là... Moi, je suis un ancien musulman. C'est pour ça que quand quelqu'un dit « Je sors de l'islam », tout le monde acclame. Parce qu'on sait que... C'est pas évident, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais l'adoration, mes amis, l'adoration. Quand il dit « Le reste des hommes, oh mon Dieu, va se tourner vers le Seigneur », c'est l'adoration qui va déclencher ça. Ça veut dire quoi? Par nos propres forces, on n'a pas pu évangéliser les gens. Il y a des peuples, on est fatigué. Frère, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire. J'ai parlé. Tu finis de parler, même les gens restent incrédules. Oh Dieu, comment on peut faire? Et tu vois tous les jours les parents qui meurent sans connaître Jésus. C'est pendant que je sais ça que le Seigneur m'a fait lire ce passage, Actes chapitre 16. Il dit, mon fils, quand je trouverai de véritables adorateurs, quand je serai élevé, j'attirerai le reste des hommes à moi. Alléluia. Oui. Oui, et le passage, je le donne à quelqu'un qui le connaît, je veux le rappeler. Vous savez, Ismaël, c'est le fils d'Abraham, non? Ismaël, c'est le père de l'islam. D'ailleurs, même le L de Ismaël, là, si vous déplacez, ça fait Islam. Ismaël, c'est le père de tous les Arabes. C'est lui qui a engendré l'islam. Ismaël est un fils d'Abraham. La Bible dit de lui, lorsqu'il est né, la Bible dit, voici la prophétie que Dieu a donnée. Il dit, cet homme-là sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. La Bible dit il va habiter en face de tous ses frères. C'est ce que Dieu a prophétisé. Donc c'est pourquoi nos frères arabes, ils sont contre tout le monde. Tout le monde est contre eux. Ils sont dans un coin. Bon, ce n'est pas eux tous, hein, mais parmi eux, il y a beaucoup de gens dangereux. Tout explose. Frère, fais attention. Si tu veux faire palabre, vous faites palabre avec des gens. Mais il y a des peuples là. Même si tu es plus fort que eux. Quand ils ont commencé. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas la force. Mais si tu as commencé un palabre. Hein, j'ai déjà vu des enfants comme ça. Tu le frappes, il est derrière toi. Il dit, Oudla, tu vas me tuer. Oudla, tu vas me tuer. Il vient et puis il te tape. Il dit, allez, quitte là. Mais quelqu'un qui te poursuit, Oudla, tu vas me tuer. Vous pensez que ce que les Irakiens sont en train de montrer aux Américains, si on leur demande, même en cauchemar, de revenir, s'ils arrivent à s'en sortir, ils ne vont plus vouloir jamais aller attaquer des gars comme ça. Là. Parce que leur palabre ne finit pas. Et tu sais quand ça commence. Mais tu ne sais pas comment ça va finir. Et ça, on dit Ismaël. Il sera contre tous. Tout ce monde sera contre lui. La Bible dit qu'il va habiter face à ses frères. Il n'a pas peur de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit donc qu'Ismaël est un âne sauvage. Mais rappelez-vous de ce que Jésus a fait. Oh, alléluia. Lorsque Jésus-Christ revenait à Jérusalem. Alléluia. Oh. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Ah, je pense que vous avez déjà compris l'affaire. Jésus-Christ rentra à Jérusalem. Il a dit cette phrase qui est bizarre dans la parole de Dieu. Jésus s'apprête. Il dit, mes amis, il prend deux disciples. Il dit, allez me chercher un âne sur lequel personne n'est jamais monté. Ça veut dire quoi? Un âne sauvage. Alléluia. Il dit, allez m'amener cet âne. Personne n'est monté sur lui. La Bible dit, les apôtres sont partis. Il dit, si quelqu'un vous demande, dites, le Seigneur en a besoin. Parce que, on dit, non, mais eux, ils sont musulmans. Ils ont leur religion, on a pour nous. Il dit, si quelqu'un vous demande, dites, le Seigneur les appelle. Ils ont fait venir l'âne. Vous savez, c'était quelque temps avant la mort de Jésus. Quelque temps avant la mort de Jésus. Jésus a voulu montrer ce tact-là, quelque temps, juste avant sa mort, pour dire, oh, alléluia. Quand les gens amenaient l'âne, Jésus est monté sur le dos de l'âne sauvage. Jésus nous disait ceci, c'est que lui, Christ, avant son retour, il va dompter l'âne que personne n'arrive à dompter. Il va monter sur le dos de l'âne sauvage. Il revient. Alléluia. Et vous savez ce qui se passait quand Jésus était sur le dos de l'âne? Ce qui se passait? La Bible dit que les gens, ils ont jeté le pain, ils ont jeté les choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont loué. Ils ont célébré le Seigneur. La louange. La louange. Et voilà la phrase qu'il prononçait. Voilà la phrase qu'il prononçait. Il dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous savez, la phrase qu'ils ont prononcée, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, dans le livre de Matthieu 24, Jésus dit ceci. Il dit, Israël, vous ne me reverrez plus jusqu'au jour où vous allez prononcer le mot béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand ils adoraient le Seigneur, ils disent, béni soit celui qui vient. Amen. Ça veut dire cette phrase-là. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est une adoration de la fin des temps. Ouais. La fin des temps. Il est en train de dire que Jésus-Christ, avant son retour, va dompter, va prendre l'âne sur lequel personne n'est monté. Jésus va monter sur son dos. Pour que lui aussi, parce qu'il est un fils d'Abraham, il puisse rentrer dans la promesse. Oh, alléluia! Dieu va racheter l'erreur d'Abraham. Dieu a décidé de racheter l'erreur d'Abraham, mes amis. Abraham, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Abraham a fait une erreur. Mais dans la miséricorde de Dieu, Dieu va racheter sa faute. Et l'instrument que le diable a saisi pour s'opposer à tout ce qui vient de la foi, oh, alléluia, va être dompté pour la gloire de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Mais pour que ces cœurs-là puissent changer, c'est ce que je viens de vous expliquer. La gloire qui va descendre pour les transformer ne viendra que d'un peuple d'adorateurs. En ce moment, on n'en verra plus. Ce n'est plus une affaire de pasteur. Ce n'est plus une affaire d'évangéliste. Vous savez, le ministère d'adoration est un des rares ministères, un des seuls ministères où on ne voit pas quelqu'un. Nous, là, on prêche, on nous regarde. Et c'est comme si on partage un peu la gloire avec le Seigneur. Vous comprenez, non? Si tu prêches bien, on dit, ah, tu prêches bien, homme de Dieu. Bon, gloire, c'est ce que le Seigneur a voulu. C'est souvent gênant pour nous. Parce que il te faut constamment lutter avec ta personne et savoir qu'en fait, c'est à Dieu qu'on donne gloire. Et que toi, tu n'es juste qu'un instrument. Parce que l'instrument est toujours félicité. Mais la louange, on ne voit personne. Vous voyez tout à l'heure, pendant que Constance posait l'adoration, c'est vrai que c'est Constance. Est-ce qu'on regardait Constance? Là, je parle, tout le monde m'écoute. Mais dans l'adoration, tout le monde prêche. Tout le monde célèbre l'Éternel. C'est là où la voix élève Dieu. C'est le dernier ministère qui sera manifesté. Le tout dernier ministère. Nous, là, on a appelé à disparaître. Alléluia. La Bible dit les prophéties cesseront. Les prédications vont cesser. Mais l'adoration sera toujours au ciel. C'est le tout dernier ministère, mes amis. Au ciel, tu vas prêcher à qui? Nobody. Tu vas prophétiser ce que nous tous sommes les prophètes. Tu as dit quoi? Ainsi par l'Éternel. Ainsi, on dit l'Éternel, même à nous ici. Changer de vie. On dit frère, nous-mêmes, on est là. Mais la seule chose qui ne va pas disparaître, l'adoration, la célébration du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Au vrai, je sens de manière prophétique que ce jour-là arrive. C'est pourquoi je dis, Seigneur, prenons le temps, tout le temps qui arrive. C'est pourquoi on fait ce culte d'adoration. Afin qu'au fur et à mesure, on apprenne de plus en plus. Nous, les prophètes, les pasteurs, on vous amène simplement. Il faut que par nos prédications, on disparaisse et que lui, il paraisse. Parce que Jésus revient bientôt. Il faut que nous effacions. Alléluia. Il faut qu'on disparaisse de plus en plus et que lui soit élevé de plus en plus. Parce que son heure est arrivée. Quand Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste devait disparaître. Il dit non, je ne peux pas rester avec lui. Je dois m'effacer pour que lui soit là. Ne comparez pas avec Jésus. Et moi, je sens que Jésus-Christ arrive bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il va demander à ce qu'on lui envoie l'âne sauvage. Amen. Amen. Et pour cela, il faut que le peuple commence à l'acclamer. Il faut que les cœurs des gens deviennent de véritables adorateurs. Des gens qui le respectent. Même si on est faible, même si on est pécheur comme la pécheresse, même si on a des difficultés, on est comme la pécheresse. On ne sait pas comment on va faire. On ne peut pas arriver dans le lieu très saint du tabernacle de Moïse. Mais David dit, non, il y a un autre tabernacle. Dans mon tabernacle, le tabernacle de David, il n'y a pas parvis, il n'y a pas lieu saint, il n'y a pas lieu très saint. Tu rentres en une seule fois, vous commencez à l'adorer et Dieu est là. Vous le célébrez d'un cœur sincère, Dieu est présent. C'est ça l'attente de David. Dieu dit, je relèverai l'attente de David. Et le reste des hommes sera sauvé. Oh, alléluia. À jamais, tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. T'adorer, toi seul. Jésus. À jamais tu seras. Disons-le à notre Dieu, qu'à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oui, je fléchis les genoux. À jamais tu seras. Disons là à notre Dieu qu'à jamais tu seras, Seigneur. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux.
Béni par ce message, à votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.